l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
On va revenir ce matin sur le conflit entre Israël et l'Iran et nous sommes en ligne avec le géopolitologue Frédéric Ancel.
Oui Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation en direct de Paris pour évoquer évidemment ces tensions entre l'Iran et Israël qui durent depuis plusieurs jours. Alors ce sera ma première question. On parle de tensions, on parle de conflits. Faut-il parler aussi de guerre ? De quoi parle-t-on exactement aujourd'hui dans ces opérations militaires ?
Oui, et bravo à vous pour cette question. Et je suis sérieux parce que les toutologues parlent beaucoup trop souvent et à tort de guerre et confondent très régulièrement les cessez-le-feu et les traités de paix, les conflits commerciaux et les guerres. Et en l'occurrence, bien oui, je dois vous le dire, c'est assez rare, mais là, on a affaire à une véritable guerre. C'est-à-dire que on n'est plus seulement sur une rivalité ou sur une tension forte à base de mener plus ou moins discrète ou de coup de force, comme ça s'est produit à maintes reprises ces 15, 20 dernières années même, entre Israël et l'Iran. Mais c'est une véritable guerre. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien, l'état-major aussi israélien, ont décidé que cette fois, il fallait en finir avec ce qui est perçu, qui est représenté comme Israël, par Israël, pardon, comme une menace existentielle. Donc, il s'agit de d'éloigner en quelque sorte l'épée de Damoclès du nucléaire militaire iranien. Donc là, ça signifie qu'il ne s'agit plus seulement de pression, si vous voulez, militaire, diplomatique, psychologique, mais il s'agit d'en finir très concrètement et quel qu'en soit le prix.
Alors, quelles sont les cibles d'Israël ? Parce qu'on s'est aperçu au début des frappes que c'était les sites nucléaires qui étaient visés, mais Israël n'a pas forcément la capacité militaire de les détruire. On a l'impression aujourd'hui que les cibles ont un peu changé, qu'elles concernent le régime iranien et le régime des Mollahs.
Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que les cibles nucléaires sont toujours prioritaires, enfin, en tout cas prioritaires. Elles existent et d'ailleurs, elles sont d'une ampleur considérable, d'autant plus considérable que l'espace aérien iranien est nu. D'ailleurs, c'était déjà le cas en octobre ou novembre dernier, hein, lors des échanges de tirs de part et d'autre après l'écrasement du Hezbollah au Liban. Bon. Donc les Israéliens savaient pouvoir compter, en tout cas pendant quelques mois, avant que se reconstitue un dispositif de radar en Iran, que l'espace aérien était à peu près libre et donc les cibles continuent d'être nucléaires. Mais c'est vrai, vous avez raison, dès le premier jour, elles ont été aussi politiques. Et d'ailleurs, les discours de Netanyahou, Premier ministre israélien, sont extrêmement clairs. Hein. Ils stigmatisent systématiquement le régime iranien en pointant tous ses péchés, qui sont d'ailleurs tout à fait authentiques. Hein. Ce n'est pas un régime sympathique. Le problème est le suivant. C'est que lorsque vous basculez d'un objectif militaire à un objectif politique, là, vous prenez de très très graves risques, et notamment celui de l'enlisement d'un conflit. Et par ailleurs, je le dis d'un mot, on a rarement vu dans l'histoire, et certainement dans l'histoire récente d'ailleurs, on a rarement vu un régime, sioniste soit-il, et il est sioniste, par la grande majorité de la population iranienne, chuter du fait d'une intervention militaire extérieure. C'est quand même extrêmement rare. Donc j'ose espérer pour la région et même pour Israël d'ailleurs, que ce n'est pas le cas, que Netanyahou n'a pas décidé de bifurquer vers une ambition qui serait surtout politique.
Alors, quelle est la capacité militaire de l'Iran ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des tirs de missiles réguliers qui touchent Israël, qui fait d'ailleurs des missiles qui font des morts parmi la population civile. Quelle est la capacité militaire de l'Iran ? Est-ce qu'elle peut tenir plusieurs jours, plusieurs semaines sur ce rythme-là, ou est-ce qu'elle va s'amenuiser peu à peu ?
Alors, à ce rythme-là, c'est 10 jours. Hein. C'est 10-15 jours, pas plus, puisque l'Iran ne dispose en réalité que d'une force balistique. Alors le problème de la balistique, c'est que votre missile, il sert une fois. Et puis pour en fabriquer un autre, ça prend beaucoup de temps. Le chasseur-bombardier, surtout lorsqu'il est dernier cri et piloté par les meilleurs pilotes du monde, ils peuvent servir des dizaines, voire des centaines de fois. Et donc de ce point de vue-là, au sens strictement militaire du terme, l'Iran ne peut pas l'emporter. Ne peut pas gagner cet affrontement, au sens, encore une fois, strictement militaire. Après, politiquement, on verra bien ce qui se passera. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est celle qui concerne les autres capacités de nuisance, en quelque sorte, de la République islamique d'Iran. Écoutez, c'est pas nouveau, ce sera le terrorisme. Mmh. Bon, ça, après tout, dès 79, on l'a vu à l'œuvre. Hein. Et pas seulement, d'ailleurs, sur des cibles israéliennes. Ça peut être des cibles juives non israéliennes. On se souvient de l'Argentine en 94. Et ça peut être des cibles occidentales de manière générale.
Vous avez parlé de l'isolement de l'Iran. On peut s'étonner, par exemple, que le Hezbollah n'ait réagi ni par les mots, ni par les armes. Vous êtes surpris de cette non-réaction du Hezbollah ?
Ah, c'est-à-dire qu'il a été écrasé en octobre-novembre, en dépit des redemontades toutes plus grotesques les unes que les autres de feu son chef Nasrallah, qui rappelle d'ailleurs les redemontades tout aussi ridicules des chefs iraniens actuels. Il a été écrasé. Alors attention, ça ne signifie pas qu'il ne lui reste rien, mais ce qu'il reste en capacité de nuisance du Hezbollah, il le conserve, il les conserve, ses forces, pour tenir son ultime bastion de Beyrouth Sud. Parce que au fond, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a prospéré, et c'est là qu'il trouve, sa raison d'être, au cœur de la territorialité chiite libanaise. Bon, et à l'origine, il faisait surtout du social. Bon. Donc en fait, il est revenu à son ethos originel, en quelque sorte, et à son étiage militaire originel. Alors, si les Israéliens décidaient de rentrer à Beyrouth, mais il est bien évident que là, le Hezbollah redéploierait, ce qui lui reste de force, mais il serait redoutable. Mais il n'est plus redoutable aujourd'hui pour frapper Israël. Et ce qui est terrible pour Téhéran, c'est que le régime des Mollahs avait joué énormément en investissant des dizaines de milliards de dollars que la République n'avait pas en réalité. Et d'ailleurs, la population iranienne était exaspérée de ce soutien de Téhéran au Hezbollah lointain. Et c'était une assurance-vie, une garantie qu'Israël n'attaquerait pas l'Iran, sans quoi il serait menacé évidemment par le Nord. Or, le Hezbollah avait fait l'erreur insigne le 8 octobre, donc après le massacre du Hamas du 7 octobre 2023, non pas d'attaquer massivement Israël, mais de rester sous un seuil, croyait-il, d'exaspération des Israéliens dans le cadre d'une espèce de guéguerre de basse intensité. Seulement voilà, comme je le disais depuis un peu plus de 2 ans, connaissant assez bien tout de même la société israélienne et son armée et ses états-majors successifs, le 7 octobre a tout changé. Aujourd'hui, il faut bien comprendre, je le dis d'un mot, le paradigme a changé lors du pogrom du 7 octobre. Les Israéliens, aujourd'hui, l'armée israélienne, le gouvernement israélien sont extrêmement dangereux pour leurs ennemis, en tout cas à autoproclamer. Et c'est vrai parce que le pogrom du 7 octobre, et aujourd'hui, je pense que Téhéran, il lui en cuit, et il en prend pour son, le régime en prend pour son grade, de ne pas avoir sous-estimé, en quelque sorte, le choc du 7 octobre et la volonté de faire en sorte que ça ne se produise plus.
Alors Frédéric Ancel, lorsque Israël lance des opérations de ce type, il y a souvent une coordination avec les USA qui sont leur principal soutien. Aujourd'hui, Donald Trump a fait planer un doute sur l'engagement militaire éventuel des Américains. On sait que le porte-avions Nimitz est en train de faire route vers le Moyen-Orient. Est-ce que les États-Unis envisagent ou non d'entrer aussi dans ce conflit militaire ?
Non, je ne crois absolument pas. D'abord, Trump n'aime pas ça. Alors, il aime bien faire défiler des chars en carton et des soldats qui marchent pas au pas. Bon, ça, d'accord. Enfin, pour le reste, c'est... Non, il déteste ça. D'ailleurs, il avait toujours affirmé lors de 3 campagnes électorales, et d'un mandat, d'ailleurs, déjà d'un premier mandat, qu'il n'enverrait pas un seul soldat américain hors des frontières nationales. En revanche, il est très préoccupé par de potentielles cibles iraniennes qui prendra la forme de bases américaines, ou de consulats, ou d'ambassades, ou de simples touristes américains un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'il n'interviendra pas aux côtés d'Israël, sauf évidemment, encore une fois, si c'est l'Iran qui fait le premier pas. En revanche, je suis absolument convaincu qu'il maintiendra l'approvisionnement en munitions et en matériel et en pièces détachées en faveur d'Israël.
Alors il y a aussi il y a la question de cette fameuse bombe qui peut percer les sites nucléaires qui sont bunkérisés sous terre, la GBU-57 que détiennent les Américains mais pas les Israéliens. Est-ce qu'ils pourraient la fournir à Israël ?
Je vais vous dire franchement, je ne crois pas, notamment parce que ça serait considéré là, pour le coup, comme un casus belli par l'Iran, et perdu pour perdu, l'Iran pourrait très bien frapper les alliés des États-Unis dans la région, dont la sacro-sainte Arabie Saoudite. Je dis sacro-sainte aux yeux de Trump, on l'a encore vu il y a quelques semaines. Donc ça, je ne crois pas, mais je me demande, et je n'ai pas la réponse, je ne suis pas ingénieur militaire, et je ne suis même pas sûr qu'eux aient la réponse, je ne sais pas dans quelle mesure les GBU et les BLU, donc c'est des noms de bombes très très puissantes, mais moins que celles, effectivement, moins que la 57, ne sont pas capables de reporter de plusieurs années l'effectivité ou la potentialité de disposer d'une bombe par l'Iran. Je veux dire par là que la destructivité des autres bombes importantes, liées à l'efficacité manifestement redoutable à la fois des F-35 et de leurs pilotes israéliens, est-ce que ça ne suffira pas pour produire suffisamment de dégâts, ben, j'en suis pas certain.
Deux questions encore, Frédéric Ancel. La première concerne évidemment Israël, qui mène cette guerre donc, contre l'Iran, qui est aussi engagé contre des opérations militaires à Gaza. Est-ce que l'Israël a la capacité de mener ces deux fronts, si vous me permettez l'expression, et a le soutien de la population israélienne ?
Alors, question essentielle, il faut découpler ces deux fronts. C'est-à-dire que, d'abord, ce sont des fronts de nature différente. Il n'y a aucun soldat israélien qui va aller commencer à envahir l'Iran. Bon, ça, c'est une évidence. Bon. Donc là, ce sont les pilotes et quelques ingénieurs militaires autour d'eux qui font l'essentiel. Alors, je ne parle pas d'agents du Mossad, mais pour l'essentiel, d'ailleurs, ce sont des agents, je pense, iraniens complices d'Israël. Certainement pas beaucoup d'Israéliens, citoyens israéliens qui crapahutent en ce moment en Iran. Donc, alors qu'à Gaza, les fantassins sont extrêmement... les fantassins déployés au sol, je veux dire, sont vraiment le fer de lance de l'intervention israélienne. Bon. Donc, ce sont de... Donc oui, de ce point de vue-là, Israël peut mener de front, sachant qu'il y a du coup moins de bombardements du Hamas, parce qu'il y a moins d'aéronefs aujourd'hui à disposition pour Israël. Donc c'est sans doute un soulagement pour une grande partie des habitants de Gaza. Ensuite, je vous dirais que la population israélienne réagit de manière extrêmement différente, puisqu'elle est aujourd'hui très majoritairement opposée au gouvernement israélien, et pour une part opposée à la guerre, à la manière, en tout cas, qu'a le gouvernement israélien de mener cette guerre. C'est un conflit, là, pour le coup, intra-israélien. Vous avez de l'identité dedans, vous avez de la religion, vous avez Jérusalem, vous avez, évidemment, enfin, le statut de Gaza, l'humanité, enfin, les considérations humaines et humanitaires, tout ce qui n'existe pas avec l'Iran. Avec l'Iran, je vais vous dire d'un mot, le problème aux yeux des Israéliens, il est strictement militaire et totalement existentiel. Voilà. C'est-à-dire que le Hamas n'est qu'une menace tactique. Alors, il a fait très très mal le 7 octobre, mais notamment du fait de l'impéritie du gouvernement Netanyahou. Il a fait très mal, mais ce n'est qu'une menace tactique. Le Hamas ne pouvait pas détruire Israël. Bon. Même le Hezbollah ne le pouvait pas. Alors qu'une bombe iranienne, aux yeux des Israéliens en tout cas, c'est une menace absolument rédhibitoire et existentielle. Donc, vous voyez que sur ce dossier, il n'y a pas de débat. En fait, en Israël, et même la gauche soutient Netanyahou.
Alors, pour terminer, Frédéric Ancel, lorsqu'il y a une flambée de violence de cette nature dans le Proche-Orient, tout le monde craint un embrasement, voire un conflit mondial. Si on se réfère à votre dernier livre, La guerre mondiale n'aura pas lieu, paru aux éditions Olding Jacob, vous n'y croyez pas? A priori, il n'y aurait pas d'embrasement généralisé?
Ah ben non seulement je n'y crois pas, mais on a concrètement affaire à un conflit localisé. C'est pas parce qu'on en parle ourbi et torbi dans le monde entier, mais pareil d'ailleurs pour le même phénomène pour l'Ukraine. C'est pas parce qu'on en parle dans le monde entier que c'est un conflit qui risque de dégénérer. Je vais tenter de vous convaincre avec un seul paramètre, mais qui est tout à fait fondamental. Il n'y a pas d'alliés militaires à l'Iran. Beaucoup trop de vos confrères ces dernières années galvaudent les termes, ce que vous ne faites pas, ou les confondent, notamment des termes très importants, tout à l'heure je parlais de la guerre, mais le fameux terme d'alliance. Il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Iran et un autre État, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. C'est vrai avec Moscou, c'est encore plus vrai avec Pékin, et quant aux États arabes de la région, vous imaginez à quel point... en dépit de leurs regrets hypocrites et de leurs condamnations tout aussi hypocrites, ils sont extrêmement heureux qu'Israël fasse le sale boulot. Donc en réalité, il n'y a pas de possibilité pour l'Iran d'engager d'autres puissances façon syndrome ET-14. Mais entre parenthèses, et je conclue, c'est vrai aussi pour Israël, hein, on l'a dit, bien sûr que les États-Unis vont continuer à fournir des munitions et des matériels, mais certainement pas à intervenir directement. Par conséquent, ça restera un conflit localisé, comme le conflit russo-ukrainien est aussi un conflit localisé.
Et les autres conflits, parce que voilà, on ne parle pas de guerre mondiale, mais on parle d'un monde en guerre. Hein. Il y a le Cachemire, il y a le Soudan, dont on parle peu, qui sont aussi des véritables poudrières. Même ces régions-là ne risquent pas de générer un conflit qui s'étende.
Ah non, j'y crois absolument pas. D'abord, parce que le Soudan, c'est une guerre tout à fait intestine, dont à peu près tout le monde se fiche, effectivement. Enfin, vous l'avez malheureusement rappelé, l'Est du Congo aussi. D'un mot, le Cachemire, c'est beaucoup plus sérieux parce qu'on a affaire à des puissances titanesques, au vrai sens du terme. Ce sont des puissances nucléarisées, Pakistan, Inde, Chine, extrêmement peuplées, etc. Oui, mais justement, par un faux paradoxe, je ne crois pas à une guerre au Cachemire, parce que la dissuasion joue à plein. Et on a bien vu en juin 2020 que plusieurs dizaines de soldats avaient été tués dans une rixe, enfin, dans des affrontements extrêmement violents entre soldats indiens et soldats chinois, mais, entre guillemets, seulement quelques dizaines alors que ça aurait pu dégénérer, et aucun d'eux n'est mort d'une arme à feu. Aucun, parce que c'est interdit par les deux pays. Donc il n'y a pas de traité de paix, mais quand on fait la guerre, on la fait avec des tasers et à coups de pierre et à coups de bousculade dans des ravins, à 4800 mètres d'altitude. C'est-à-dire que la dissuasion joue à plein, en l'occurrence elle est nucléaire, mais il faut se souvenir que, et j'invite vos auditeurs à faire tourner le globe terrestre, il y a aujourd'hui dans le monde plusieurs dizaines d'États qui rêveraient, dont les régimes politiques rêveraient d'attaquer l'État voisin, qui ne le font pas, pensant, sans doute à juste titre, que le faire leur coûterait beaucoup plus cher que de ne pas le faire.
Frédéric Ancel, un grand merci pour vos éclairages merci sur la situation actuelle et d'avoir été en direct avec nous. Et je renvoie les auditeurs à votre dernier livre paru donc aux éditions Odile Jacob, La guerre mondiale n'aura pas lieu, avec ce sous-titre Les raisons d'espérer. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro 24 28 28.